propriétaire d'un IMOCA, franchement, ouais, ça me paraît complètement fou.
On passe pas mal de temps à convaincre.
On sent aujourd'hui l'intérêt des médias pour cette course.
Aujourd'hui, je partirai sur le Vendée Globe avec cette voile.
La première manche de la saison du circuit IMOCA, c'est Capagir Ensemble qui l'a remporté.
C'est la plus belle course que j'ai faite.
Quête de Globe, le podcast immersif de Sébastien Marsay, produit et réalisé par Audiotactique.
De toute façon, j'accepte pas de naviguer lentement, c'est insupportable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Quête de Globe. Et ben j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié le précédent épisode et ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est de revivre la course suivante. En fait, dans la chronologie, la course suivante, c'est le retour à la base. Donc le retour à la base, c'est une nouvelle course. C'est la première édition de cette course qui part donc de Fort-de-France en Martinique pour rallier l'Orient. C'est la course en fait retour de la Transat Jacques Vabre, uniquement ouverte aux IMOCA, les bateaux du Vendée Globe. On est en solitaire sur ces bateaux et elle est à la fois qualificative et sélective pour le Vendée Globe 2024. Donc c'est une course extrêmement importante, ce qui fait que il y a un nombre de concurrents assez élevé. Il y avait 40 concurrents qui étaient prévus. Pour des raisons de casse matérielle, finalement, on sera 32 sur la ligne de départ. Donc on prépare cette course depuis Fort-de-France. On a un temps extrêmement restreint parce qu'il y a 6 jours qui séparent notre arrivée avec Sophie Faguet sur la Transat Jacques Vabre et le départ du retour à la base. Donc il y a 2 priorités finalement. C'est que je puisse récupérer un maximum dans ce laps de temps-là et que l'équipe technique puisse remettre le bateau dans le meilleur état possible pour reprendre le départ, sachant qu'on est tout à fait conscient que le bateau ne sera pas aussi bien préparé qu'au départ de la Transat Jacques Vabre. C'est impossible vu le laps de temps qu'on a devant nous. Donc il faut vraiment aller aux priorités pour toute l'équipe technique qui est pleinement mobilisée sur le bateau. Moi, c'est vrai que j'en profite pour m'éloigner un petit peu, me reposer, profiter aussi de certains de mes proches, mes parents qui ont fait le déplacement en Martinique. Et puis, il se trouve que j'ai un oncle et une tante qui vivent aussi à Fort-de-France et avec qui j'ai l'occasion de faire quelques balades pour profiter tout simplement de la Martinique. Hein. C'est un cadre idyllique, on peut aller à la plage très facilement, il fait chaud, l'eau est bonne. Il y a des poissons multicolores dans l'eau, on peut voir des tortues. Profiter de tout ça malgré la durée relativement courte de l'escale et puis se reposer, s'alimenter correctement avec des fruits frais. Il y a des super fruits qu'on n'a pas en métropole. Ma priorité, je ne sais plus qui est-ce que j'avais dit ça au téléphone, mais je dis je travaille en me reposant actuellement parce que dans 6 jours, je repars en solitaire sur le bateau et je sais que ça va être très dense. Et l'équipe technique, au contraire, elle est dans une sorte de sprint parce que y a les histoires de mâts qu'on a eues sur la Transat Jacques Vabre qu'il faut complètement solder et mettre de côté pour que ce soit plus un souci. Et puis toute la repréparation de la course, les mille et un petits détails qui a amélioré, à modifier après la Transat Jacques Vabre, refaire l'avitaillement également parce que ça se prépare pas du jour au lendemain. Valider mine de rien tout ce travail-là par de la navigation, parce que avant de partir tout seul sur le bateau, c'est inconcevable qu'on n'ait pas vérifié que tout ce qui a été fait durant ces 6 jours soit efficace, efficient. Donc on est allé naviguer, même si on n'avait que 6 jours, on a consacré une de ces 6 journées à vérifier que le bateau était fonctionnel pour que je puisse repartir. Le départ, c'est un départ qui est beaucoup moins stressant qu'un départ de Transat Jacques Vabre, parce que c'est vrai qu'en partant de Martinique, il y a un village, il y a une animation, mais il y a moins de public, on a moins cette pression, il y a moins de journalistes, on a moins cette pression, c'est en comité plus restreint. Le départ est simple, c'est-à-dire que la ligne de départ, elle est dans un endroit facile. Il n'y a pas de danger autour. La météo est bonne aussi. Donc c'est un départ relativement zen, je dirais, par rapport à ce qu'on peut connaître en automne en métropole. Et donc on part sur l'eau, on quitte le quai. Donc avec Tom et Matt qui m'accompagnent pour rejoindre la zone de départ. Et c'est vrai que on sort du port, on envoie la grand voile, on se rapproche de la zone de départ, et puis à un moment donné, je descends dans le bateau, et là, je vois une alarme qui clignote, j'ai un certain nombre d'alarmes dans le bateau, et là, je vois une alarme visuelle qui clignote, et là, je me rends compte que c'est ma batterie de quille. Donc la quille, elle est actionnée par un énorme vérin hydraulique, et ce vérin hydraulique fonctionne grâce à une pompe électrique qui est relié à une batterie pour avoir de l'énergie. Et en fait, c'est cette batterie qui m'indique qu'elle a un niveau de charge trop bas. Donc là, pour le coup, la situation n'est plus du tout zen parce qu'on est à quelques dizaines de minutes du départ et on se rend compte que la batterie de quille ne charge pas. Qu'en gros, elle ne se charge pas et que dans X temps, peu de temps, parce que ça demande beaucoup d'énergie de basculer la quille. Hein, la quille, elle fait quasiment 4 tonnes, la quille du bateau. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie pour la manipuler. Donc, on cherche la solution. On est avec le voltmètre. On essaie de faire une charge pour voir si les batteries chargent. Ça ne charge pas. On essaie d'avoir nos prestataires réguliers qui sont en métropole au téléphone, qui répondent à nouveau présents. Hein, Tim et Jenny qui ont vraiment joué le jeu, qui ont été disponibles immédiatement. Et puis là, on fait le constat que non, le chargeur de la batterie de quille, il marche pas. Et donc, si je pars, ça va pas fonctionner. Je peux pas traverser l'Atlantique comme ça, quoi. Donc j'appelle la direction de course, c'est l'équipe qui gère la sécurité des bateaux en fait pendant la course, et je leur dis je peux pas partir, je peux pas partir, j'ai un problème technique, je peux pas partir. Et là Hubert, qui est un copain, c'est Hubert Lemonnier, on a beaucoup travaillé ensemble. On a 6 minutes du départ, hein. Il y a encore Mathieu qui est à bord, et il doit descendre avant les 4 minutes. Donc on a 2 minutes devant nous. Et Hubert, il me dit tu peux pas couper la ligne de départ, parce que si tu coupes la ligne de départ, tu peux faire une escale et tu peux repartir dans la foulée de cette escale. Alors que si tu ne prends pas le départ, là, tu es bloqué pendant 24 heures à Fort-de-France. Donc là, je raccroche avec Hubert et je dis à Matt, là, il faut que tu débarques. Donc à nouveau, ça devient sa spécialité. À Matt, il débarque en sautant du bateau. Alors, c'est plus facile de sauter du bateau en Martinique qu'au Havre parce que l'eau est beaucoup plus chaude. Et donc évidemment, il est récupéré par un semi-rigide qu'on avait prévu, qui était là, qui l'attendait dans toutes les conditions de sécurité. Et moi, je vais prendre le départ en sachant pertinemment qu'en fait, je coupe juste la ligne et derrière, je reroule ma voile d'avant et j'appelle la direction de course pour dire je fais une escale technique. Et donc, c'est effectivement ça que je fais. Donc, je sors du bateau, mais il fait une chaleur de dingue. Il fait une chaleur de dingue, une chaleur moite à l'intérieur. Je suis en transpiration, un truc de dingue. Je sors et là, je n'ai même pas pris le temps de me positionner sur la ligne. J'ai rallié la ligne le plus rapidement possible. Je n'ai pas pris un si mauvais départ que ça. Et donc, dans la minute qui a suivi, j'ai arrêté le bateau et j'ai appelé la direction de course pour déclarer mon escale technique. Et Mathieu et Tom m'ont rejoint à bord. Et on a pris 2 heures et demie pour vraiment identifier d'où venait le problème. Donc, il y avait deux problèmes, un problème de tension de batterie et puis un tout petit câble, et c'est un câble, on parle d'un câble d'un millimètre carré, c'est un tout petit câble qui avait une connectique, un faux contact en fait, hein, tout bête, hein, un faux contact, un câble un peu desserré, puis une connectique un peu défaillante. Donc ça, en relation avec les prestataires à terre, ça nous prend 2 heures et demie pour l'identifier. Et surtout, ce qui nous prend le plus de temps, c'est de dire est-ce que ça marche correctement, est-ce que là, ce qu'on a qui fonctionne, ça permet de faire une transatlantique sereinement, quoi. Et donc, c'est quand même relativement rapide d'arriver à faire tout ça en 2 heures et demie. On se dit oui. Et là, du coup, on est de nouveau en relation avec la direction de course pour dire dans quelles conditions je peux reprendre mon départ. Hubert et toute l'équipe de la direction de course nous les donnent. Et donc, je pars avec ce delta, ce retard de quelques heures sur mes concurrents. Et par contre, une sensation... C'est difficile parce que j'ai une sensation de fatigue directe, quoi, après avoir dépensé toute cette énergie dans la chaleur à résoudre le problème, le stress que ça génère. Et donc, immédiatement, je me sens un peu fatigué, tout seul. Je lui ai dit, bon, écoute, tu vas contourner, on devait contourner la Martinique par le sud. Donc, contourne la Martinique par le sud. Et il y avait une grande zone autour de la Martinique qui nous était interdite parce que il y a ce qu'on appelle des dispositifs de concentration de poissons, qui sont une espèce de bouée sur lesquels les poissons viennent. En fait, il y a des organismes vivants qui se développent et il y a une concentration de poissons. Et donc, c'est des engins de pêche. Et donc, la direction de course a mis une zone interdite dans laquelle on ne pouvait pas rentrer pour éviter qu'on ait des collisions avec ces dispositifs de concentration de poissons. Et donc, il fallait faire tout des virements de bord le long de cette limite. Donc, je fais mes virements de bord et puis j'aperçois sur mon écran de navigation un bateau à l'AIS. Et puis, donc l'AIS, c'est un système d'identification. Et je me dis, tiens, ça ressemble bien à un IMOCA qui fait la course. Et c'était Denis, donc skipper belge. Je dis, tiens, là, j'ai Denis devant moi. J'essaie de me rapprocher. Et donc, voilà, assez rapidement, j'ai retrouvé du contact avec d'autres bateaux. On a contourné cette zone et puis à un moment donné, on a pu aller en ligne droite vers le nord. Et là, du coup, c'était la première nuit. Et puis là, j'ai soufflé en disant, ça y est, là, tu fais route plein nord pendant 4-5 jours. Rentre dans le rythme de ta course. C'est parti. Le problème de batterie de qui, il semble maîtrisé. Vas-y et ça va le faire, quoi. C'est vrai qu'après m'être éloigné de la Martinique, je rentre dans mon rythme de marin. Alors au départ, mon rythme de marin, il est vraiment axé sur rallier l'Orient, faire cette course pour les histoires de qualification. Et la performance est un peu plus en retrait parce que je suis parti derrière les autres, parce que j'ai une petite défiance vis-à-vis du bateau techniquement, après avoir eu quand même ces soucis techniques. Et finalement, cette confiance, je la reconstruis pas en un claquement de doigts, mais petit à petit, au fur et à mesure des jours, en voyant que de toute façon, j'accepte pas de naviguer lentement. C'est insupportable de pas aller, de pas avoir le bateau bien calé. C'est pas tant d'aller vite, mais c'est de sentir que le bateau est bien équilibré, qu'il est bien toilé. C'est vraiment ça. Et donc, finalement, je remonte des concurrents. Et petit à petit, au fur et à mesure des jours, je reconstruis ma confiance dans le bateau. Et puis, on est dans un rythme de navigation où on va plein nord pendant plusieurs jours pour contourner l'anticyclone des Açores. On est toujours dans les alizés. La vie à bord est plutôt douce, même si douce parce que facile. Ça secoue, on est face à la mer, on est au près, mais on a encore plein de douceur de la Martinique, des fruits, des avocats. Je me fais des super repas. On peut se laver à l'eau de mer. L'eau est bonne. Voilà, il y a des poissons volants. Donc vraiment une vie. Remontée de l'anticyclone dans les alizés. C'est l'alizé pas trop fort, donc c'est pas infernal. Et puis, finalement, c'est vrai, cet attrait pour la performance qui reprend de plus en plus de place en voyant que je remonte des bateaux, que je peux raccourcir un tout petit peu la route par rapport aux bateaux de devant du fait de la météo. Et voilà. Et puis finalement, on contourne cet anticyclone, on se retrouve au nord de l'anticyclone. Et là, c'est parti pour la glissade, parce qu'une fois qu'on est au nord de l'anticyclone, on a un vent de secteur ouest, entre le sud-ouest et le nord-ouest. Voilà, en l'occurrence, à ce moment-là, c'est du sud-ouest. Et on change de voile, on range les voiles de près, on met les voiles de portant. Et donc là, j'envoie le grand spi, notre grand spi qu'on pensait utiliser sur la Transat Jacques Vabre, et puis qui finalement est resté bien au chaud parce qu'on a fait une route nord. Et là, je l'envoie. Finalement, arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'il casse. Il casse. Et donc, on l'avait anticipé, on le savait. Hein, c'est une voile qui date de 2016, donc il y avait pas mal d'heures d'utilisation au compteur. On s'était dit, avec Sophie, qu'on avait le droit de la casser, cette voile, mais uniquement sur la Transat Jacques Vabre. Et finalement, elle a été au-delà de la Transat Jacques Vabre. On avait le droit parce que elle était vieille. Et par contre, se retrouver avec 360 mètres carrés de tissu qui tombe de la tête de mât et passe à l'eau et forme une grande poche d'eau. Finalement, nous on appelle ça un chalut, on dit qu'on chalute parce que ça a vraiment la forme d'un chalut de pêche en fait, hein, sauf qu'il n'y a pas de maille pour laisser passer l'eau. Ça arrête complètement le bateau et là c'est plusieurs heures d'efforts pour récupérer, remettre en route, tout ça. Donc je casse ce grand spi, je le remplace par le petit. Et donc voilà, je poursuis ma route vers cette première porte qui était appelée la porte K3. Finalement, en étant de plus en plus sur la perf et en me disant surtout, tiens, là, ce qui nous attend dans les prochains jours, c'est hyper intéressant parce que ok, j'ai plus les voiles exactement qu'il faut parce que bon bah le grand spi il est cassé, mais finalement il va pas me manquer très longtemps. Le petit spi, c'est une voile qui est extrêmement dure à utiliser en solitaire parce que c'est une voile qui, c'est pas une voile qui se roule, c'est une voile qui se met dans ce qu'on appelle une chaussette, c'est comme une chaussette qu'on met sur un pied, sauf que c'est une chaussette là qui vient englober la voile pour pouvoir l'envoyer la falaie, mais c'est des manœuvres qui en solitaire sont pas évidentes. En double avec Sophie on les faisait, mais là en solitaire c'est pas facile et je pense pas partir sur le Vendée Globe avec ce type de voile. Et mon petit Jenac, on l'a cassé à l'aller, donc j'ai pas le petit Jenac. Par contre, j'ai une voile que je voulais utiliser depuis très longtemps, qu'on appelle la mule, et que j'ai jamais eu l'occasion de voir en réel. Et là, je me dis, bah tiens, ce qui nous attend, c'est du vent fort, au portant, dans de la mer formée. Il faut en profiter un max pour préparer le Vendée Globe, parce que t'auras pas 10 000 fois ces conditions. Et donc, je me prends en jeu, je découvre le bateau. Finalement, je découvre le bateau avec cette configuration, avec ces configurations de voile. C'est-à-dire que je suis obligé de faire du petit spi malgré tout, sinon je suis complètement arrêté. Donc, je me challenge moi-même en allant faire ces manœuvres pas faciles sur la plage avant. Et puis, j'utilise cette mule qui, dès qu'il y a suffisamment de vent et surtout, on fait beaucoup de tribord à mur, c'est-à-dire qu'on reçoit le vent de la droite et la mer est alignée. Et donc le bateau, la mer va plein est elle aussi comme notre route, et donc le bateau fait des accélérations à chaque vague, et en fait cette mule permet vraiment de garder l'accélération, de garder la vitesse générée par la vague, et donc ça fait des super surf, ça fait des super points de vitesse, et là je me régale avec finalement un bateau qui est très facile à utiliser parce que j'ai la grand voile, la mule et le J3, et c'est des voiles qui sont relativement faciles d'usage quoi. Et donc c'est vrai que sur toute cette phase de navigation, je scrute attentivement mes concurrents. Encore une fois, on a les positions heure par heure. Et même en solitaire, il n'y a pas beaucoup de fois où j'ai laissé 2 ou 3 heures entre aller consulter ces relevés. J'ai même dû me forcer parfois à ne pas le faire en disant « Bon Seb, ça va, tu sais faire avancer le bateau, tu n'as pas besoin d'être sur chacun des classements. Il y en a que tu peux laisser passer, ça va pas, c'est pas un drame. » Et donc c'est vrai qu'en plus, on échange entre nous. On discute un peu par messagerie, quoi, par WhatsApp. On se connaît bien, on s'apprécie, on a de bonnes relations. Et donc, c'est vrai qu'il y a Fanche que j'ai dépassé. Ensuite, il y a Manu Cousin, qui est vraiment un bateau qui est assez proche du mien. Enfin, des bateaux qui ont été mis à l'eau en même temps, même si celui de Manu, il a beaucoup, beaucoup évolué. Et là, j'arrive à faire un petit pif-paf vers le nord et à le décrocher. Et c'est vrai que devant moi, c'est un peu plus distant. Mais je vois que ça se rapproche. Guirec, qui clairement a des phases où il est très lent. Je vois qu'il a des phases où il est très lent, donc je me rapproche. Et puis, à un moment donné, je vois que la barre des 100 000 est plus très loin, des 100 000 de retard, finalement, est plus si loin que ça sur le bateau de Louis, le bateau de Violette. Je continue ma route en scrutant tout ça. Et il y a vraiment, je pense, un point qui est assez clé. C'est le moment du passage de l'archipel des Açores parce qu'on a des routes qui nous sont proposées par les logiciels de routage qui sont vraiment très difficiles à tenir parce qu'elles se placent en bordure de système météo, elles passent dans des tout petits couloirs entre les îles, elles sous-estiment les effets d'accélération du vent qu'il peut avoir entre ces îles qui sont assez élevées. Hein. Les Açores, c'est assez élevé. Hein. Je ne connais pas l'altitude par cœur, mais il y a le mont Pico, je crois que c'est le point culminant portugais, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, c'est assez élevé. Et donc, en fait, je décide, moi, de pas suivre la route du routage. Je me dis, non, là, il n'y a pas assez de marge. Le routage, il est trop précis, il est trop pointu. Ça va pas passer. Et donc, je passe un tout petit peu plus au sud. Je continue plus longtemps vers l'est. Et je pense que là, c'est là-dessus vraiment que je recolle de manière dangereuse pour eux. pour le classement, Louis et Violette, parce que je pense que ça, je le fais mieux. Très clairement, je le fais mieux qu'eux. Et donc, je ressors de l'archipel. Et là, clairement, ouais, Louis, en plus, il a eu des déboires. Violette, je ne sais pas trop, peut-être. Mais voilà, là, il y a un match dans le match qui s'intensifie et qui dure parce que on est aux Açores, donc on doit être à 5 jours de l'arrivée. On est à 4 jours du Cap Finistère, donc il faut tenir ses moyennes, il faut pas lâcher quoi. Donc là ouais, ça s'intensifie, enfin en tout cas pour moi à bord ça s'intensifie beaucoup. Et puis il y a de la mer, c'est vrai qu'il y a de la mer, donc c'est intéressant parce que ça influe tellement sur la manière de naviguer que c'est hyper intéressant. Et ensuite, on se rapproche du rush final, c'est-à-dire qu'on a dans la ligne de mire le Cap Finistère. On est sur des routes qui sont un peu décalées au sud du Cap Finistère. Il va falloir monter au nord pour rallier ce Cap Finistère. Et c'est vrai que, en fait, dans toute cette navigation au milieu de l'Atlantique, on pouvait choisir un peu les conditions dans lesquelles on voulait se mettre. Et puis là, on a un goulet d'étranglement parce qu'il y a le Cap Finistère qu'il va falloir laisser à droite. Et puis ensuite, il y a un point à rallier. Donc, on a de moins en moins de latitude pour gérer la météo, les conditions météo dans lesquelles on va se mettre. Et c'est vrai qu'on gère les critères en fonction de la force du vent, la taille de la mer. Et puis là, c'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois où, en mettant des paramètres de conditions déjà engagées dans le logiciel de navigation, finalement, le logiciel de routage nous répond « Aucune route n'est possible. » On se dit « Ah mince, moi, je veux quand même aller à l'arrivée, donc il va falloir que je revoie, que je revoie certains des critères. » Donc c'est vrai qu'on sait qu'on va avoir des passages avec un coup de vent, tout simplement, de la mer formée. Et ce passage, c'est du Cap Finistère jusqu'à l'arrivée, quoi, finalement. C'est vrai que le Cap Finistère, là encore, c'est un point. Il y a les monts Cantabriques qui sont assez hauts, qui accélèrent le vent. Et on est dans une configuration qui est un front qui arrive par l'ouest et qui finalement vient buter sur les monts Cantabriques. Et en butant, finalement, le vent compresse, accélère, et donc forcément, ça lève le vent, donc ça lève la mer. Et en plus, il y a ce qu'on appelle le plateau continental. Le plateau continental, c'est là où les fonds passent de plusieurs milliers de mètres de profondeur, 2000, 3000, 4000 mètres, jusqu'à 200, 300. Et donc, à l'endroit de cette marche, qui est invisible, qui est sous l'eau, l'état de la mer se dégrade. Et donc, on est assez vigilant à ces endroits-là. On sait que la fin de course va être très engagée au point de vue météo, et elle est aussi très engagée d'un point de vue sportif, parce que tout à l'heure je vous parlais des bateaux que je regarde devant, mais depuis quand même quelques temps j'ai bien vu que derrière il y a un bateau qui pédale un petit peu plus vite que moi. C'est celui de Tanguy, et là je le vois arriver et je me remémore le final de la route du Rhum, parce que je me souviens très bien sur la route du Rhum 2022 qu'à 1500 milles de l'arrivée j'avais 150 milles d'avance sur lui. Et que quand je vois le delta des performances des bateaux, je me dis « Ah, on est dans un mouchoir de poche pour l'arrivée, quoi. » Et là, à nouveau, on se retrouve dans un mouchoir de poche où je sais qu'il est… Voilà, il est. Je regarde aussi la barre des 100 000 derrière moi et je sais qu'on va être dans un mouchoir de poche à l'arrivée. Et donc, je fais tout ce que je peux en perdant pas de vue que l'important, c'est de finir, quoi. Il s'agit pas de se retrouver avec un souci au milieu du golfe de Gascogne qui remette tout en question, quoi. Ce qui est malheureusement arrivé à Sébastien Simon, qui l'a géré en finissant la course sans mât. Mais voilà, il s'agit pas de se retrouver dans une situation comme ça, quoi. En tout cas, de tout faire pour l'éviter. Donc, il faut gérer un peu les deux, quoi. Et donc le passage du Cap Finistère, comme prévu, on a beaucoup de vent, il y a de la mer, donc là je prends trois ris dans la grand voile, j'ai toujours la mule qui est déroulée devant, et j'arrive à créer un décalage finalement vers l'est qui est assez intéressant, parce que le lendemain le vent aura tourné, ce sera plus difficile d'aller dans l'est, donc j'ai ce petit décalage par rapport à Tanguy. Il n'y a plus beaucoup de distance au but, mais j'ai ce petit décalage qui est intéressant, et finalement je l'exploite pas jusqu'au bout parce que le matin de l'arrivée, en fait, en vitesse pure, je sais qu'il va passer. Si je fais rien, je sais qu'il va passer. Et le seul truc que je pourrais faire, c'est repartir encore un petit coup vers l'est avant lui pour créer de l'incertitude, en fait, dans les trajectoires. Et je le fais pas parce qu'on est justement pile poil à ce moment-là, au moment où je peux partir vers l'est, je suis pile poil sur le plateau continental. Et ce plateau continental, c'est là où il y a la concentration la plus importante de mammifères marins. et on essaye d'y passer le moins de temps possible pour éviter le risque de collision, quoi. Donc, je pèse le pour et le contre. Je me dis, bah, d'un côté, tu peux créer de l'incertitude et mettre la pression jusqu'au bout. Mais tu étais dans cette zone où tu sais qu'il y a beaucoup de baleines, quoi, en gros, quoi. Et donc, j'ai pas envie d'y rester, quoi. Donc, finalement, je poursuis vers le nord et j'empanne un tout petit peu plus tôt, mais ça suffit pas. Et on finit à une demi-heure l'un de l'autre sur la ligne d'arrivée, quoi. L'arrivée, comme à chaque fois, c'est un moment. C'est des moments vraiment émouvants, quoi, de se dire, attends, j'ai pris le bateau, j'ai fait un aller-retour, j'ai fait un aller avec Sophie, je fais le retour tout seul. On est en plein hiver, c'est l'Atlantique Nord, tu l'as fait, quoi. Franchement, je suis fier de moi, quoi. Je suis content, je suis fier de tout le travail de l'équipe. Et puis après, c'est une ligne d'arrivée où il y a 3,50 m de houle. Au large de Groix, il n'y a personne qui peut venir nous voir dans ces conditions-là. Donc en fait, on est un peu tout seul. Et quand je dis il n'y a personne, j'exagère, parce qu'il y a quand même Mathilde, Tom et Matt qui sont là. On a pris un gros semi-rigide cette fois-ci, parce qu'il faut un gros semi-rigide pour aller dans cette mer-là. C'est Jean-Philippe qui pilote. Et puis qui monte à bord pour m'accueillir. Donc là, on a les retrouvailles un peu en catimini entre nous sur le bateau. Et puis, ensuite, on prend la direction du port de Lorient pour retrouver tous ceux qui sont là sur le ponton au moment de l'arrivée. Franchement, c'était génial parce qu'une arrivée, moi, je vis à Lorient. Ma maison, elle est à Lorient. Ma famille, elle est à Lorient. Mes amis, j'ai plein d'amis. De pouvoir avoir tout le monde sur le ponton à l'arrivée, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. On a souvent du monde au départ. Au départ, on est tendu, on est beaucoup plus tendu qu'à l'arrivée, on sait qu'on l'a fait, quoi. Et donc là, il y a tout le monde sur le ponton, et c'est génial comme moment, quoi, de retrouver la terre, de retrouver tout le monde. Et puis c'est à la fois très déroutant parce que on est dans une vie, franchement, en mer, assez rudimentaire et vraiment seul, quoi. Et d'un coup, la solitude se brise. Et on se retrouve avec beaucoup beaucoup de monde, donc c'est aussi déstabilisant, et les jours qui suivent sont pas non plus ça déroule pas tout seul, parce que voilà, faut se remettre dans un rythme de vie de terrien, tout simplement. Faut quitter la rupture entre la vie du marin seul en mer et la vie finalement collective à terre. Elle se fait en un claquement de doigts quand on enjambe les filières et qu'on descend du bateau. Alors, dans les prochaines semaines, on va s'atteler à planifier au mieux possible, du mieux possible, toute la saison 2024 jusqu'au départ et à l'arrivée du Vendée Globe, finalement. Et puis aussi, il y a toute la phase d'entretien, d'optimisation du bateau qui va s'étaler jusqu'en mars. Le projet ne s'arrête pas, il y a toujours beaucoup à faire. En tout cas, merci de m'avoir écouté lors de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'étais content de partager avec vous cette expérience du retour à la base. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler, le diffuser, le reposter et à faire connaître notre projet. Merci à toutes et tous. À très bientôt. Salut.